Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Sommaire aujourd'hui, une émission spéciale film culte. Alors bon, c'est une appellation un peu large, mais on va dire que là, on va traiter de films singuliers, alors qui ont marqué leur époque et qui pour certains sont véritablement des films cultes, et puis pour d'autres, ils ne le sont que pour une certaine frange de cinéphiles. Voilà. Débutons tout de suite ce programme, hein, déroulons le programme par un film qui lui a une réputation. Absolument culte, c'est L'Inconnu de Chandigore de Jean-Louis Roy, parce que c'est un film aussi qui a été longtemps invisible, hein, voilà, un film très particulier, très singulier. Autre film qui a la réputation d'être culte comme tous les premiers films de son metteur en scène, c'est Iruko the Goblin de Shinya Tsukamoto, hein, réalisateur dont on a déjà parlé récemment, mais là on y revient, le réalisateur de Tetsuo qui y revient donc pour ce Iruko the Goblin. Autre film aussi, Alberto Express de Arthur Joffé, qui n'a rien à voir avec Roland Joffé, hein, je le précise quand même, Arthur Joffé, un réalisateur français. Et ces trois films sont sortis chez Carlotta Film. On va ensuite parler de films cultes, mais là c'est pour les amateurs d'horreur français. Haute Tension d'Alexandre Aja. Et À l'intérieur d'Alexandre Bustillo et Julien Maury, deux productions donc françaises qui ressortent chez ESC. Également culte, deux titres qui sortent chez BQHL. Alors là, le film d'un réalisateur ultra culte, hein, Ken Russell. Un film qui s'appelle Malheur, comme le compositeur évidemment, puisque c'est un biopic du compositeur, mais bon, un biopic pas comme les autres. Et on causera aussi du film Faux-semblant de David Cronenberg. Alors Malheur et Faux-semblant, c'est disponible chez BQHL. L'équipe de Culture Prohibée remercie Juliette Béguet, Lucie Mautier et François Villa pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, revue disponible sur le site de l'éditeur The Ecstasy of Film.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. Pour causer culte, je suis accompagné de mon cultissime chroniqueur, bien évidemment. Je veux bien sûr parler de Damien Demé, dit La Bête Noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimera Tech disponible sur YouTube. Hello Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes cultistes qui nous écoutent.
Petit retour en arrière, mon cher Damien, nous sommes à la fin des années 60. Alors, le film est sorti au cinéma en 68, mais il était terminé en 67. Je vais te parler d'un film qui est un film réalisé et écrit donc par un auteur complet, hein, un certain Jean-Louis Roy. Jean-Louis Roy, qui est un réalisateur suisse, qui avait provocation, qui voulait révolutionner en fait le cinéma. Et il signe un film qui va marquer son époque, c'est L'Inconnu de Chandigore, qui est un film donc désormais disponible chez Carlotta Film, qui est un film qui a été présenté à Cannes en 67, qui est un film de genre suisse, ce qui est déjà unique en soi, hein, qui est une sorte de parodie de roman d'espionnage, et qui a la particularité d'avoir un casting assez dingue, puisqu'on y retrouve aussi bien Serge Gainsbourg que Daniel-Émile Faure, que Marie-France Boyer ou Jacques Dufilot. On voit Marie-France Boyer est très belle, et le reste du casting masculin, par contre, est plutôt composé. Bon, la beauté, c'est subjectif, hein, mais de trogne, de gueule, de physique atypique. Et le film, qu'est-ce que ça raconte ? Alors, ce film raconte l'histoire du savant Herbert von Krantz. Déjà, rien que le nom, c'est une invitation à la parodie. Et il a mis au point un procédé révolutionnaire. Ce savant, c'est Daniel-Émile Faure. Vous savez, avec sa tronche pas possible, le méchant dans La Cité des Enfants Perdus, et qui a une diction très, très singulière, très étonnante, avec un accent très particulier. Il est d'origine argentine, je crois, si ma mémoire est bonne, Daniel-Émile Faure. Et donc, Herbert von Krantz, il a mis au point un procédé révolutionnaire qui s'appelle l'annulator, qui permet de désamorcer les armes nucléaire. Donc, qui le possède deviendra le maître du monde, comme le répète à plusieurs reprises Daniel-Émile Faure. Et donc, évidemment, son invention fait l'objet de convoitises de tous les services secrets, de tous les terroristes du monde entier. Et lui, il vit dans une sorte de bunker, une maison à l'architecture improbable, avec un bassin dans lequel il a une créature qu'on ne verra jamais, qu'il nourrit régulièrement, une créature étrange. Il est totalement paranoïaque et il vit dans cette demeure qui est très très sécurisée avec son assistant Ivan et donc sa fille Sylvaine. Et il exerce sur eux une emprise tout à fait singulière. Et, en fait, pendant tout le film, des espions vont rôder comme ça autour de la maison et sont prêts à tout pour récupérer l'annulator. Alors, le film, c'est vraiment un événement de pouvoir le voir parce qu'il était resté invisible pendant 50 ans, en vérité. Bien qu'il ait été présenté au Festival de Cannes en 67, il avait totalement disparu. Et il a très vite fait objet d'un culte incroyable du fait de sa disparition. Hein, tous les gens qui avaient pu le voir à Cannes, c'est un film démentiel, c'est drôle, c'est incroyablement bien filmé, c'est incroyablement bien joué. Et puis, il y avait un casting de fou, quoi. Je vous ai dit, il y a Émile Faure, il y a Gainsbourg, il y a Dufilot, mais j'avais oublié aussi, il y a Howard Vernon. Donc, c'est quand même un casting assez démentiel. Là, c'est pareil, une trogne pas possible, ce Howard Vernon. Et puis, en fait, le film a été projeté au Festival de Locarno en 2016, qu'on avait retrouvé une copie qui a été restaurée. La Cinémathèque suisse l'a sorti dans un coffret qui était dédié au groupe 5, hein, donc c'est le collectif des 5 réalisateurs qui venaient de Genève, donc Claude Goretta, Michel Souter, Alain Tanner, qui est certainement le plus célèbre de tous, hein, aujourd'hui, Jean-Jacques Lagrange, et donc Jean-Louis Roy. C'est cette copie qui a servi de base au Blu-ray qui arrive chez Carlotta Film. Ce film donc est en noir et blanc. C'est totalement volontaire. C'est-à-dire qu'on est dans un film filmé comme les films expressionnistes allemands. C'est assez fascinant. C'est filmé dans l'architecture Art Nouveau de Gaudi. Hein. C'est carrément filmé dans les décors. C'est pas des décors conçus par Gaudi, ils sont allés directement en Espagne, hein, à Barcelone, pour filmer à la Sagrada Familia et tout ça. Donc, ça donne des images complètement dingues. Les cadrages sont complètement dingues. Le film enchaîne comme ça des gags, des idées visuelles complètement folles, où on est vraiment dans un univers qu'on pourrait vraiment rapprocher de celui des Avengers, enfin des chapeaux melons et bottes de cuir, en fait. Période Hemapil, vous savez, c'est vraiment la grande période. On est vraiment dans ce monde-là. Et tout le monde, alors c'est assez joyeux parce que tous ces gens qui attaquent Herbert von Krantz pendant que sa fille essaye de vivre le grand amour avec un bellâtre, ils sont tous ridiculisés, que ce soit des Russes, que ce soit des Américains, que ce soit des mercenaires, dirigés par Vernon. Et puis surtout, ce qui est extraordinaire, c'est cette brigade de chauves. Donc il y aurait un groupuscule de chauves qui existerait, spécialisés dans l'art du déguisement, et qui sont formés par Serge Gainsbourg. Donc du coup, on a le droit du Gainsbourg, voilà, c'est assez chouette. Et bon, le film est assez délirant, on est dans l'absurde le plus total par instant. Malgré tout, c'est une vraie histoire, hein. Il y a une vraie histoire qui peut se suivre comme ça, en parallèle avec cette histoire d'amour, cette jeune femme qui voudrait essayer de fuir de l'emprise de son père, et cette vraie histoire d'espionnage assez prenante, dans un esprit très, très pulp. Ça peut rappeler d'ailleurs Pulp de Michael Gies, qui est un grand film méconnu avec Michael Caine, hein, qui est super, qui est fait à la grande époque de Michael Gies, hein, juste peu de temps après Get Carter, et qui est complètement, qui s'appelle Pulp, parce qu'il rend hommage justement à tous ces romans pulp, et on est complètement, complètement dedans. La photographie de Roger Bimpage, elle est sublime, hein. Les contrastes dans le noir et blanc qui sont très travaillés renforcent cette idée d'expressionnisme. Enfin, c'est un film d'une beauté picturale assez saisissante pour un Jean-Louis Roy, en fait, qui va pas du tout faire la carrière qu'on attend de lui, hein. Dans les suppléments du Blu-ray sorti chez Carlotta Film, il y a une émission de télé suisse qui s'appelle Cinéma Vif, qui est une émission qui a été diffusée sur la RTS en mai 67, et on y voit Jean-Louis Roy, il a 29 ans, et puis il explique qu'en Suisse, certes il y a des réalisateurs, mais ils ne font que du documentaire, donc il veut s'écarter de ça, il veut faire tout à fait autre chose, et il a voulu travailler sur l'idée des poncifs dans le film d'espionnage, et aussi traduire son appétence pour la bande dessinée en mettant en scène cette histoire délirante. On a des scènes sur le tournage du film, qui sont très intéressante, et on a surtout des acteurs qui sont assez admiratifs du talent de ce garçon, et qui pourtant, hein, c'est très 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 étonnant, il va pas du tout faire carrière, c'est-à-dire il fait ce long métrage et après il disparaît il fait plein de choses, de la télé, tout ça, mais il revient pas au cinéma, il re-signe pas de grands films, il est complètement, enfin c'est presque un mystère, quoi. C'est un regret, en fait, parce que ce film est complètement dingue, délirant. Il est presque poétique, en fait, dans la manière dont il traite l'absurde. Et pourtant, c'est aussi, comme je vous le disais, c'est aussi un vrai film d'espionnage avec un vrai développement très classique du film d'espionnage. Ce qui change tout dans ce film, c'est la mise en scène, c'est le traitement qui est apporté au récit. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus frustrant de voir que Jean-Louis Roy n'a pas réussi à mettre en scène d'autres longs métrages pour le cinéma. En attendant, ce film là, qui avait une réputation culte, donc surtout aussi parce qu'il était invisible, L'Inconnu de Chandigor, donc de Jean-Louis Roy, est désormais disponible chez Carlotta Film. Il est pour moi à la hauteur de sa réputation, c'est un film de son époque, et franchement, le voir dans ces conditions, c'est exceptionnel, donc on vous encourage à vous jeter sur ce très beau Blu-ray édité par Carlotta Film.
Bye, bye, Mr. Spy, va-t'en retrouver Argus, prince aux 100 regards. Va au pays où se sont tus les silencieux. Fais preuve d'intelligence avec l'ennemi.
royaume de Satan. Dérobe-moi les plans.
Vous écoutez Culture Prohibée.
Quand tu iras au bal, du mal, arrache à Lucifer les voiles du mystère, Mr. Spy, bye bye.
Mon cher Damien, je viens vers toi car là je vais aller changer d'éditeur, je vais aller chez BQHL. Pour parler d'un film qui est sorti d'ailleurs avec un livret de Marc Toulek très complet qui revient sur toute la jeunesse du film, d'un film de Ken Russell qui s'appelle Malheur, qui est un film de 74 avec Robert Powell dans le rôle de Malheur, Georgina Hall dans le rôle de sa femme. C'est vraiment les deux personnages principaux du film. Et on est en 1911, Malheur rentre à Vienne hein, par le train. Il est malade, alors en vrai il lui reste quelques jours à vivre, hein, puisqu'il va mourir très peu de temps après ce voyage. Et là, tout au long du voyage, on sent qu'il a le spleen, quoi. Il n'a pas la pêche, notre ami Malheur. Et il va revivre plein de moments de sa vie. Et c'est ça que nous compte Ken Russell. Mais mon cher Damien, c'est Ken Russell. Alors, il ne faut pas compter sur Ken Russell pour nous faire un biopic chiantissime, comme le sont la plupart des biopics, voilà. Chez Ken Russell, bon, déjà dès le début, hein, avec ce papillon chrysalide qui danse autour d'une tête en pierre qui est la tête de Malheur, et ce papillon qui n'est rien d'autre que sa femme, on voit que Ken Russell file la métaphore et surtout qu'on n'aura pas affaire à un biopic comme les autres.
T'as parlé de l'introduction qui permet de donner le ton immédiatement avec cette séance un peu de rêve étrange, un rêve fiévreux. Ils vont revenir à plusieurs moments de l'histoire, mais ils donnent immédiatement le ton. Alors Ken Russell, un des plus grands réalisateurs britanniques, son équipe là aussi, hein, tu l'as dit, on retrouve Georgina Hall qui est récurrente dans son équipe, on l'avait déjà vu dans Les Diables. Alors moi, la petite particularité que j'ajouterais, c'est qu'elle joue dans Doctor Who, qui montre que c'est vraiment une actrice britannique, vu que tous les acteurs britanniques normalement ont joué à un moment dans Doctor Who. Et c'est aussi une introduction qui permet de mettre en avant une thématique de rêve qu'on retrouve souvent chez Russell, parce que le rêve, ça lui permet de faire ressortir toute la folie, il peut y mettre exactement tout ce qu'il veut, qui est une thématique qu'on retrouve très souvent dans ses films. Alors quand je dis la folie, c'est pas juste qu'il est fou, hein, c'est la folie dans le sens une énorme mise en scène, beaucoup de choses qui sont importantes. On a affaire à un film musical, vu que c'est un biopic. Alors la musique, au tout début du film, Malheur, il dit que sa musique, en fait, c'est une musique qui symbolise la nature. C'est une musique qui est proche de ce qu'est la nature, ce qu'est l'eau, le vent, et c'est quelque chose qui est mis en avant et qu'on retrouve tout au long du film par des visuels magnifiques. Par exemple, au moment où il dit ça juste derrière, bah, on a une planète Terre qu'on voit en train de tourner comme si c'était un disque, et la musique qu'on retrouve au cœur du film, bah, c'est la musique du compositeur Malheur en lui-même. Mais ce qui est intéressant, c'est que si Malheur nous dit que sa musique c'est la nature, bah, la façon dont Ken Russell l'utilise, c'est pas pour la nature, il l'utilise pour parler de la société. Et ça, il va l'utiliser à chaque fois qu'il aura besoin de mettre un morceau en avant de Malheur, ça servira à mettre en avant bah, un moment de la société, un moment de la vie de Malheur. Par exemple, on a le moment où très souvent il subit de l'antisémitisme, il y a un moment où il triche, il n'utilise pas la musique de Malheur, il utilise la chevauchée des Valkyries de Wagner, pour le moment où on a la conversion de Malheur qui en fait n'arrive pas à réussir n'arrive pas à réussir dans son pays parce qu'il est juif, et pour être sûr d'avoir du succès et d'être reconnu, il choisit de se convertir, qui est la scène qui a le plus de folie en elle. que ce soit la Valkyrie avec... enfin, la Valkyrie. Que ce soit le personnage qui est censé incarner... alors, au départ, c'est annoncé comme le fait que c'est la déesse même de la musique, mais c'est quelque chose d'encore plus ambigu avec sa jupe... qui porte une svastika dessus, qui fait des levées de bras très souvent. Et c'est un moment très très délirant, et on a beaucoup de moments très très délirants dans le film, mais celui-ci c'est vraiment le summum des moments délirants. Et en fait, donc, sa musique va permettre de mettre en avant des moments de la vie de Mahler et des moments de sa vie qui vont avoir des aspects sociaux, comme je l'ai dit. Alors, c'est un film qui déborde de l'énergie de Ken Russell, mais je trouve, et je sais que Jérôme, que t'es pas tout à fait d'accord avec moi, je trouve que c'est son film le plus sage. Alors, ces moments de folie, ils sont... Voilà quoi, ils sont présents, notamment il y a un autre moment où il imagine qu'il va mourir et que sa femme va le quitter pour un adversaire qu'il déteste. On peut la voir faire du French Cancan et un striptease sur sa tombe alors qu'il est enterré. C'est des moments qui sont extrêmement particuliers, mais qui font partie de la filmographie de Ken Russell. Et il y a beaucoup d'éléments qui sont intéressants. C'est un film qui est rempli, qui est quasiment chargé de beaucoup de symboliques, notamment le fait que sa femme à Mahler soit une compositrice, mais qu'on n'entend jamais sa musique, et que les rares moments où on la voit être en chef d'orchestre, ce sont les moments où son mari n'est pas là. Par exemple, il y a un moment où il lui compose dans son petit cabanon, elle va dans la ville, elle se retrouve au milieu d'une fête, et la fête qui était bruyante quand elle arrive, ça devient une fête silencieuse où elle est chef d'orchestre de gens qui s'amusent, mais dans le silence, qui est affreux pour elle au final, puisque sa musique qui est littéralement tué, enfin réduit au silence. Et la deuxième fois où elle est mise en chef d'orchestre, c'est au moment où il a ce rêve fiévreux à nouveau sur le fait qu'il va mourir, où avant qu'elle se mette à faire un striptease et à danser, elle est à nouveau la chef d'orchestre au final de ses funérailles. C'est rare moment où en fait on la voit elle s'exprimer dans la musique, alors que c'est mis en avant que c'est une compositrice. Alors, il y a quelque chose qui est beau, et je reviens sur la scène justement où il se convertit, c'est qu'il veut tellement être reconnu, il veut tellement être un artiste qui va jusqu'à sacrifier sa propre religion pour devenir musicien. Et c'est quelque chose qui permet de décrire Mahler, c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à faire des sacrifices pour être reconnu dans sa musique, en tout cas dans son film. On retrouve d'autres thèmes que Russell aime bien. On a les thématiques des rivaux. Russell aime bien avoir deux personnages qui s'affrontent, qui sont généralement, si possible, ils sont semblables mais différents. Et voilà, en fait, je trouve que c'est un film qui... alors, à nouveau, c'est son plus sage, mais c'est un film qui cristallise l'entièreté des talents de Russell. On retrouve toutes ces thématiques, et j'aime beaucoup parce que, comme il fait souvent, on a un mélange d'histoires tragiques et mélangé à la vie d'une rockstar, comme si les deux infusaient toute l'histoire qui est la nôtre.
Oui, son film le plus sage. Non, il a fait des films quand même plus sages que ça, même des films... c'est presque un gros mot de dire ça pour Ken Russell, mais presque mainstream, ou en tout cas des films plus loupés, quoi. Même des films fous mais loupés. Le Repère du Ver Blanc, c'est loupé, par exemple. Enfin, il y a des films de... Mais on peut pas dire que c'est son film le plus sage. Mais enfin, quoi qu'il en soit, on vous conseille ce Mahler de Ken Russell, qui est sorti chez BQHL. Vous écoutez Culture Prohibée spéciale film culte. Moi, je vais rester chez BQHL hein, pour te parler d'un film alors, qui est une nouvelle fois donc, accompagné d'un livret là aussi très complet de Marc Toulek, même si dans les bonus, moi, je suis très, très fan de l'analyse de Sébastien Guéraud, qui fait une cinquantaine de minutes, qui est dans les bonus. L'analyse de Sébastien Guéraud, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, avec lesquelles je suis moins d'accord avec lui. C'est pour ça que c'est bien, d'ailleurs. Alors, faux semblant... Est-ce que j'ai besoin de présenter le film ? Enfin voilà, classique, Grand Prix à Voriaz, essai, alors Dead Ringers, le titre anglais, enfin le titre international, puisque c'est une coproduction Canada-États-Unis, hein, Cronenberg est canadien. On est en 88, Cronenberg est devenu un réalisateur assez bankable, après avoir été un réalisateur un peu underground, de films un peu étranges. Il passe de, en gros, hein, ouais, Rage, Frisson, Scanners, une production un peu plus importante qui est Fast Company sur le monde des courses de voitures, bon, qui n'est pas le film le plus mémorable de Cronenberg, qu'on peut voir maintenant sur MyCanal, qui a longtemps été disponible uniquement dans une cassette vidéo édité par Initial Vidéo. Enfin bon, un truc pas très top au niveau de la qualité de la copie, là c'est mieux. Et en fait, là, il va juste après ses films au Canada, il va arriver aux États-Unis, il va se mettre à travailler pour Dino De Laurentiis, gros producteur hein, qui essaie à l'époque de se faire un nom aux États-Unis. Il va faire Dead Zone d'après Stephen King et Christopher Walken, qui est un super film, on a parlé dans cette émission. Et puis la consécration arrive avec La Mouche. Hein. Moi, je me rappelle, j'avais été voir La Mouche au cinéma. Je devais être en sixième, je crois. Je vous raconte ma vie. Hein, voilà, ça date. Bon, j'étais accompagné d'un adulte. Hein. On avait triché un peu sur mon âge, voilà, parce que c'était interdit normalement. La Mouche, qui est une sorte de mélo romantique avec un corps qui se dégrade, parce qu'on est dans la body horror, hein, cher à Cronenberg. Et là, il choisit avec ce film Faux Semblant, en 88, de basculer. Alors, Sébastien Guéraud fait basculer. Alors, c'est le seul truc avec lequel je ne suis pas d'accord avec lui. En fait, il estime que la bascule Cronenberg, comment dire, adulée par les fans de Fantastique et Cronenberg adulée par la critique plus intello, elle se fait après ce film-là. Moi, je pense qu'elle se fait à partir de ce film-là. C'est-à-dire que je pense que les fans de La Mouche n'ont pas spécialement aimé Faux Semblant. Enfin, pas tous. Je pense qu'il a commencé à y avoir une césure, puisque les gens attendaient du gore, enfin, voilà, tout ce qu'on voyait d'habitude dans les films de Cronenberg. Et là, en fin de compte, on en a très peu dans cette histoire de deux jumeaux, Beverly et Elliot Mantle, hein, des vrais jumeaux. Donc, quand on dit vrais jumeaux, c'est des jumeaux monozygotes, du même œuf, pour faire simple, qui sont tous deux gynécologues renommés. Ils partagent le même appartement, ils partagent les mêmes femmes. Et là, ils... Alors c'est Jeremy Irons qui fait les deux rôles. Hein. Les effets spéciaux sont super bien. Alors, il y a plein de bonus sur les effets spéciaux. Parce qu'il n'y avait pas le numérique à l'époque, les jeunes. Hein. Donc je peux vous dire que c'est très balèze ce qu'ils ont fait. Il y a Rafik Djoumi qui décortique ça aussi dans les bonus. Et il rencontre une actrice célèbre hein, qui est jouée par Geneviève Bujold, hein, qui est toujours les rôles borderline. On se rappelle d'elle dans Obsession, par exemple, de Brian De Palma. Toujours les rôles un peu étranges, avec son physique un peu de femme-enfant, comme ça, très particulier. Et eux, il faut savoir qu'ils sont aussi célèbres parce qu'ils conçoivent des outils, des instruments complètement dingues de gynécologie, mais qui peuvent être dangereux pour l'organisme, en vérité. Quoi. Et donc... Mais c'est deux, parce que le film débute, c'est des gamins, ils sont brillants toute leur vie. Et dès le début, on perçoit une obsession pour le sexe assez étrange, où ils veulent essayer de persuader une autre gamine d'avoir des rapports sexuels avec eux, alors qu'ils sont très jeunes déjà. Et on sent que c'est pas pour un aspect spécialement, comment dire, d'éveil au sens ou de sensualité, on sent que c'est pour un aspect médical, quoi, voilà. Donc, très très vite, ces deux jumeaux vont... il va se compléter, il y en a un qui est plus mondain, donc il va aller faire les mondanités, parce qu'ils deviennent très vite célèbres, je vous dis, ils inventent des instruments, c'est les étudiants les plus brillants de leur école, enfin voilà, ils deviennent très vite très célèbres, et ça devient un peu les gynécos des stars, quoi, voilà. Et là, ils rencontrent cette femme qui est incarnée par Geneviève Bujold, et qui est une actrice célèbre dans le film, et très étonnamment, en fait, cette femme a trois utérus. Le fait qu'elle ait trois utérus, c'est quelque chose qui va complètement les fasciner. Et ils vont tomber, tomber amoureux tous les deux, enfin il y en a un qui va être plus amoureux que l'autre, de cette femme qui est aussi une toxicomane en fait. Et du coup, ils vont aussi plonger dans l'enfer de la drogue. Enfin, un des deux jumeaux va plonger dans l'enfer de la drogue parce qu'en fait, il était demandeur d'un point de vue inconscient. Et puis l'autre pour essayer de sauver son frère. Enfin bon, voilà. C'est une histoire assez glauque en fait, et c'est la lente destruction de ces jumeaux monozygotes. Voilà. Et le film en fait va être très peu gore, très cérébral. On est dans l'autre Cronenberg, en vérité. On est dans celui qu'on connaît maintenant, ou dans celui de Crime of the Future, par exemple. Enfin, son dernier film, je ne parle pas de l'un de ses premiers films qui s'appelait déjà Crime of the Future, mais on est dans ce Cronenberg plus cérébral, plus froid, avec moins d'attachement aux personnages, parce que même quand il avait des personnages peu sympathique, on avait de l'attachement, même pour le James Woods de Vidéodrome, on peut quand même suivre ses pérégrinations. Ah, on a de la crainte pour lui quand même, malgré tout, même si c'est pas un type super sympathique, parce qu'il y a des gens plus fous que lui autour, donc en particulier le personnage de Debbie Harry par exemple, et puis même le personnage de Seth Brundle qui est interprété par Jeff Goldblum dans La Mouche, il a plein d'aspects sympathiques, quoi, voilà, et là, ils sont pas sympas en plus, ces deux jumeaux. Voilà, donc c'est un film froid, typique de ce que va devenir le cinéma de Cronenberg. C'est un film très fort, très puissant, où la violence vient en sourdine, en vérité. Hein, et il y a très très peu de scènes graphiques, mais le film dégage un sentiment diffus d'oppression. Il est très malaisant, il est très dérangeant. Voilà, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et tous les personnages sont dérangeants. Et y compris le personnage de Geneviève Bujold, qui a des pratiques sexuelles un peu particulières, enfin qui prend son pied de manière particulière. Tout cela mis en scène de manière très clinique par un Cronenberg plus chirurgien que jamais, hein, puisque c'est toujours un peu son surnom à Cronenberg, hein, de le rapprocher d'une sorte de docteur, docteur Mabuse du cinéma, voilà, du cinéma horrifique. Et bon, on n'est pas dans Cosmopolis, tout ça, mais on est déjà dans un cinéma qui commence à devenir très froid. Et en même temps, on peut éprouver du désarroi pour ces deux jumeaux, mais en même temps, c'est pas des types non plus très sympathiques par plein d'aspects. Et on a un film étrange et très particulier, très singulier, alors qui va être couvert de prix, hein, parce que c'est un grand film, hein, mais c'est un film très singulier. Et effectivement, pour moi en tout cas, c'est là que se fait la césure. C'est-à-dire que les fans d'un Cronenberg plus cinéma d'exploitation vont être un peu... Moi je me rappelle quand j'étais allé le voir en salle à cette époque, c'est un film que j'aime beaucoup aujourd'hui, mais quand je l'ai vu à l'époque, j'ai pas du tout accroché. J'ai pas du tout accroché, j'avais 14 ans, ce film me parlait pas. Aujourd'hui, j'en ai 50, ce film me parle beaucoup plus. Mes préoccupations sont différentes. Mais il faut une certaine maturité, je pense, pour voir ce film. Et bien que les sujets forts que Cronenberg traite dans ses films-là, il les traitait déjà avant, mais avec le voile du cinéma de genre, toutes les scènes gore, les explosions dans Scanners, les têtes qui explosaient, le côté des enfants maléfiques dans Chromosome 3 et tout. D'ailleurs, il y a une scène qui évoque Chromosome 3 à un moment, une scène onirique où les jumeaux sont réunis par une sorte de truc dégueulasse, un peu visqueux, qui relie leurs organes, et elle vient, Geneviève Bujold, les séparer avec les dents. Je vous fais pas de dessin, vous imaginez la scène bien crade. Voilà, et c'est une des rares scènes vraiment crades d'ailleurs du film en termes d'horreur graphique. Mais disons que du coup, c'est pour moi le film de la maturité pour Cronenberg. Avec La Mouche, les deux, pour moi, sont vraiment des films de la maturité, mais avec celui-là, il change vraiment de public. Il y en a qui vont continuer à le suivre. Moi, j'en fais partie. Hein. Moi, j'avoue, j'aime bien Cosmopolis, j'aime bien Crime of the Future. Je ne prends pas mon pied de la même manière que devant les premiers films, parce que moi, je suis toujours un peu plus fasciné quand les réalisateurs sont obligés de se conformer à des desiderata économiques et qu'au milieu d'un carcan, ils arrivent à faire évoluer des thématiques qui leur sont très propres, très personnelles. Là, avec Faux-Semblant, c'est devenu un auteur à part entière, ce qu'il était déjà avant, mais là, il n'a plus les contingences de production et tout. Là, c'est devenu un mec qui fait ce qu'il veut. Donc ça, c'est un film plus personnel, je pense. Et c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est un grand Cronenberg que je vous invite donc à revoir, ou à voir, c'est Faux-Semblant. C'est disponible chez BQHL.
vous écoutez Culture Prohibée. Je vais changer d'éditeur, je vais aller chez Carlotta Film pour deux films. Alberto Express, un film de 89, un film d'Arthur Joffé, un film avec d'ailleurs notre Compiègnois préféré, parce que notre émission elle est réalisée à Compiègne, hein. Un Compiègnois que l'on croise très fréquemment dans les rues de Compiègne, donc évidemment, qui est Dominique Pinon. Dominique Pinon, vous savez, cet acteur au physique singulier, excellent acteur, qu'on a pu voir dans plein de films. Alors, il est surtout plus connu pour les films de Caro et Jeunet, hein, mais il était déjà très apprécié d'Arthur Joffé. Là, on peut le voir tout jeune hein, dans ce Blu-ray là, qui est édité par Carlotta Film. On peut voir des courts-métrages en bonus. La Découverte, un court-métrage de 80, et Merlin ou le cours de l'or, un court-métrage de 82, où il a des rôles importants. Moi, j'aime plus La Découverte, hein, qui est un film assez original, je vous laisse le découvrir, qui peut rappeler un peu, vous savez, ce film de Polanski avec des hommes qui portaient une armoire, ça devenait carrément surréaliste, on était dans l'étrange étrangeté. Là, en fait, c'est Dominique Pinon qui a une femme très jolie, et puis en face, il y a un voisin un peu vulgaire qui, en même temps qu'il va aux toilettes faire pipi, regarde par la petite fenêtre sa femme, et on sent qu'il y a un jeu de séduction entre deux, malgré le côté très sale de tout ça. Et Pinon, pour essayer de reconquérir le cœur de sa belle, il se balade et il tombe sur des types des déménageurs en train de transporter un immense décor de New York. Et donc, il leur fait traverser toute la ville pour qu'ils viennent poster ce décor devant sa fenêtre, pour que sa femme ait comme vue, non pas un vieux libidineux qui fait pipi, mais un décor de gratte-ciel, voilà. Donc c'est une très belle idée, c'est très poétique. Merlin ou le cours de l'or, c'est autre chose. C'est un film qui a été énormément primé. Et c'est, comment dire, notre ami Dominique Pinon qui vit avec sa maman et qui élève un cheval dans un appart. Voilà, je vous en dis pas plus. Et qui manifeste en même temps un grand intérêt pour le cours de l'or. Et donc, alors, évidemment, on se doutait bien que Joffé, il n'allait pas nous faire un film très classique, puisqu'on voit qu'il a un certain penchant pour le surréalisme, pour l'étrange étrangeté. Et il nous fait Alberto Express, qui est une comédie un peu poétique, très étrange, où Alberto donc, découvre... Quand il quitte le domicile de son père en Italie, il lui dit, son père, écoute, on a une tradition dans la famille. Alors tout cela est filmé de manière assez délirante, en utilisant différentes focales, différents angles pour donner un ton très étrange à tout cela. Et son père lui dit, écoute, voilà, prends cette machine, tape, et il lui donne des chiffres. En fait, c'est parce que son père a gardé les factures de tout ce que son fils lui a coûté. Et lui dit, voilà, tu me dois tant de millions de lire. Et le jour où tu te marieras, tu feras un enfant... Le jour où tu deviendras un homme, tu devras m'avoir remboursé avant cette date-là. Et on retrouve le garçon des années plus tard, avec une femme sublime et qui est enceinte jusqu'aux yeux. Et elle doit accoucher le lendemain. Et là, il a comme un flash. Et il veut rentrer en Italie. Et puis sur le trajet, dans le train, dans l'express, donc, il va de Paris à Rome. Et donc, c'est qui devient l'Alberto Express. Alberto va rencontrer toute une galerie de personnages, tous plus singuliers les uns que les autres, et essayer de réunir cette somme de je crois, 35 millions de lire, hein, pour arriver en Italie avec l'argent. Voilà. Et il va découvrir plein de choses. Il y a plein de scènes oniriques, plein de scènes très, très étranges. Il y a aussi des seconds rôles assez hilarants. Il y a Michel Aumont, il y a Jeanne Moreau, qui est une vieille milliardaire complètement fasciné par l'Égypte, qui s'est fait momifier. Il y a le noir eunuque qui jouait dans Harem, premier long métrage de Joffé qui avait été une catastrophe critique et vous savez, avec Nastasia Kinski, enfin pour ceux qui s'en rappellent, qui avait été une vraie catastrophe. Le film est loupé, voilà, il avait loupé son passage au grand écran. Et là, il joue celui qui était le noir eunuque dans Harem, à savoir Dennis Goldson. Il joue un homosexuel qui est complètement amoureux d'un type qui passe son temps à lui poser des lapins, en vérité. Cet homosexuel est énorme et il a une dent...
il a une dent en or que veut lui piquer évidemment, enfin une sorte de plombage en or que veut lui piquer évidemment Alberto, parce que ça permettrait d'atteindre la somme tant désirée. Et puis il rencontre les personnages de son passé, ses ancêtres dans ce train, voilà. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Je vous dis pas comment ça va se terminer, mais c'est brillant, c'est épique, c'est drôle, c'est féerique, c'est touchant, c'est particulièrement bien mis en scène. Donc ça s'appelle Alberto Express, c'est signé Arthur Joffé, et c'est disponible chez Carlotta Film. Alors, toujours chez Carlotta Film, Iruko the Goblin de Shinya Tsukamoto. Alors Shinya Tsukamoto, on ne va pas vous le représenter, parce qu'on vous l'a longuement présenté, on a fait une émission sur lui. On va juste vous parler de ce film qui s'appelle Iruko the Goblin, qui est son deuxième film, qui est un film fait pour un gros studio japonais. D'ailleurs, Jean-Pierre Dionnet, dans les bonus, parce qu'il y a pas mal, il y a des entretiens avec Shinya Tsukamoto, des entretiens avec le responsable des effets spéciaux. Enfin, il y a pas mal de bonus intéressants, mais pour moi, le plus intéressant, c'est celui avec, où Jean-Pierre Dionnet présente le film, et où il explique qu'en fait, quand il fait le film, Tsukamoto est presque déçu, parce que lui, il voulait tester l'expérience d'un gros studio pour qu'on lui impose des choses, pour voir comment il arriverait à s'en sortir avec des contraintes. Et là, en fait, non, quand il le voit arriver, tu fais ton film, c'est ton délire à toi. Voilà. Et donc, on va se retrouver... Donc, il va être complètement débridé, ce film, évidemment. On va se retrouver en la fin des années 80, hein, puisque le film date de 91. Qui est d'ailleurs proposé en deux cas, là, on ne l'avait jamais vu dans une si belle copie. Il y a un prof de lycée, il y a son élève, une jeune femme, qui disparaissent mystérieusement pendant les vacances d'été. Et avant de s'évaporer, ce prof, il avait contacté Reijiro Ieda, qui est un archéologue, c'est pour ça que c'est un film pour toi, Damien, aux méthodes excentriques. Il lui avait fait part d'une étrange découverte, d'un scientifique était alors parti dans le village à la recherche de son ami, aux côtés du jeune Masao, qui est le fils du professeur. Et comment, ensemble, et bien ils vont découvrir qu'effectivement, le lycée se trouve au-dessus d'une porte qui mène tout droit vers l'enfer. Voilà. Alors, je vous dis ça, c'est un pitch, ma foi, assez classique. Hein, enfin, en tout cas, pour ceux qui aiment les films d'horreur, est fantastique. Sauf que là, bah, ça va être un truc assez dingue. Où on va avoir un film filmé comme le Evil Dead 1 et 2, c'est-à-dire avec la fameuse caméra mobilette, là, vous savez, là, où les plans vont à toute berzingue, foncent sur les acteurs, passent à travers les portes. Des scènes comme ça, il y en a plein de films. Il y a un petit côté Ghostbusters, parce que c'est ce professeur un peu dingue, il a fabriqué un appareil pour capturer les esprits. Il y a un petit côté The Thing, parce qu'il y a un esprit qui est une tête coupée sur des pattes d'araignée qui n'arrête pas de les poursuivre, qui a le visage en plus de cette très jolie jeune femme qui a disparu, cette très jolie jeune fille dont le garçon est amoureux, bien évidemment. Et puis il y a tout ça, il y a évidemment des yokai puisqu'on est chez les Japonais. Et donc ça va donner un film complètement dingue, complètement barré, qui va à 2000 à l'heure. Le film est vraiment du pur Tsukamoto, on retrouve vraiment ses obsessions, en particulier tout le côté body horror dont on avait parlé pour Tetsuo, Tetsuo 2, puis d'autres films de lui. En particulier parce que le gamin, là, Masao, il a sur son dos, plus il y a de morts, en fait, plus il a comme des pustules qui apparaissent sur son corps, et quand on regarde de près ces pustules, c'est les visages en fait des personnes qui sont mortes. Donc on est complètement encore dans les thématiques de notre ami Shinya Tsukamoto pour ce film qui, je vous le dis, est vraiment imaginez un film de monstre japonais confié à Sam Raimi, ça donnerait à mon avis à peu près ça, et vous y ajoutez la touche body horror qui va bien, et vous obtenez Iruko the Goblin de Shinya Tsukamoto, qui est donc disponible chez Carlotta Film, et on vous le conseille vivement. Mais moi, je vais quitter le Japon, mon cher Damien, et on va aller faire un tour du côté de deux films là qui sortent tous les deux chez ESC, dans des superbes éditions, hein, avec des versions 4K ultra HD, avec plein de bonus. Pour certains, il y a l'affiche du film, tout ça. Enfin bref, il y a des bonus avec Rafik Djoumi qui présente, je pense à Haute Tension, enfin le making of, tout ça. Deux films français qui ont vraiment relancer l'appétence du public français pour le cinéma d'horreur, et surtout pour le cinéma d'horreur produit en France et réalisé par des Français. C'est Haute Tension d'Alexandre Aja, et à l'intérieur, alors Haute Tension c'est 2003, à l'intérieur c'est 2007, Haute Tension c'est Alexandre Aja, à l'intérieur c'est Alexandre Bustillo et Julien Maury, et depuis les ces trois metteurs en scène ont fait quand même une carrière où ils n'ont jamais lâché le cinéma de genre. Des deux carrières, enfin, parce qu'il y en a un qui fonctionne en duo, il y en a deux qui fonctionnent en duo. Deux carrières, ma foi, assez passionnantes. Vous écoutez Culture Prohibée spécial film culte.
On pourrait dire que c'est la puissance des Alexandres, vu qu'on a deux réalisateurs qui portent le même nom et qui ont fait des films d'horreur dans les années 2000, qui en effet, l'horreur française est quelque chose dont on entend peu parler, sauf quand on a Grave qui sort et qui relance un intérêt certain pour cela. Alors que, comme va nous montrer les deux films, ce sont des films qui datent quand même des années 2000 et c'est des films pour lesquels il y a un grand intérêt. Alors je vais commencer par Haute Tension, vu qu'il est sorti en 2003, il est sorti avant à l'intérieur. Et Haute Tension, elle est très sympathique en fait. Il se passe dans une atmosphère un peu estivale où on a Marie qui est jouée par Cécile de France et Alex, qui est joué par Maïwenn, qui s'installent pour réviser leur examen dans la maison de campagne des parents d'Alex. Sauf que la première nuit se passe pas bien, pour dire absolument pas bien, vu que la famille de Alex se fait massacrer par un psychopathe. Alors, Marie s'est cachée, elle est vite au massacre. Par contre, Alex, elle, s'est fait kidnapper et Marie va tout faire pour essayer d'aider son ami et la libérer. Alors, Alexandre Aja, quand il fait ce film, il est au tout début. Juste derrière, il nous fera La Dinguerie, qui est le remake de La Colline à des yeux et que j'adore énormément. Et Haute Tension, c'est un film que j'aime beaucoup. Alors, il a des bons et des mauvais côtés, mais il représente pour moi un peu la totalité de la filmographie d'Aja. C'est qu'il fait des films qu'ils soient bons ou mauvais, ce sont des films qui ont une capacité à divertir et en tout cas qui éveillent toujours mon intérêt. Alors ici, Haute Tension est co-scénarisé par Grégory Levasseur, qui, pareil, ses travaux sont très en deçà de d'Aja, mais je trouve ces travaux très intéressants, même si grandement inégaux. Et ce film, il est totalement porté par Cécile de France, donc qui est le personnage principal, qui va se lancer à la poursuite de son ami pour essayer de la sauver, et qui va affronter cet énorme psychopathe, qui est introduit extrêmement vite. Hein. Je trouve l'intro extrêmement efficace. Bon, c'est une intro un peu des années 2000 avec la shaky cam. Il n'y a pas de musique rock derrière, enfin pas tout de suite, mais ça aurait pu fonctionner ainsi. Et c'est une course-poursuite qu'on a dans les bois, qui lance en fait le début du film, et là on a le générique avec les images entrecoupées, donc typiquement des années 2000. C'est vraiment un film qui, dans la façon dont il est monté, dans son imagerie, on le situe parfaitement dans le temps. Alors, il a un rythme qui est très bon. Je crois que ce qui aide le film, c'est vraiment son rythme. Son intrigue est prenante. En fait, une fois qu'on débute le film, on le lâche plus. En plus, c'est un film qui fait part d'une violence qui est assez impressionnante. Hein. Elle est super bien utilisée. Il a un twist de fin qui, si je me souviens bien, divise un peu les gens dans la façon dont il est mis en place. Moi, je l'aime beaucoup, je le trouve extrêmement intéressant. Et il est intéressant parce que c'est un film qui aborde beaucoup de thématiques qui sont extrêmement rares et qui sont donc sympathiques à voir au tout début des années 2000. Notamment, on a la question de l'homosexualité et de la masturbation féminine qui arrive assez vite. Il y a d'autres choses que Aja se permet, notamment le meurtre d'un enfant. Bon, il le montre pas, mais il le sous-entend fortement. Enfin, il le sous-entend. On voit l'enfant qui est mort à la fin. Et c'est un film qui n'est pas parfait, mais qui n'hésite pas, en tout cas sur le sang. Alors, sur la violence et la violence que reçoit les corps, c'est un film qui va donner pas mal. Il va les donner de façon équilibrée. Enfin, équilibrée. Il va en donner beaucoup, mais on ne va pas être dans un surplus qui va nous faire décrocher. Alors, il en profite un peu, parce que cet ensemble nous met un peu dans une position voyeuriste. Et au final, on a un film qui est bien pervers, mais vraiment maîtrisé, il se laisse pas déborder par sa perversité, et c'est un excellent exemple de ce qu'on peut faire des films d'horreur en 2000. Haute Tension d'Alexandre Aja, qui est disponible chez ESC, et chez ESC on a un autre film d'horreur français que j'ai découvert et que j'aime beaucoup, qui est À l'intérieur d'Alex Bustillo et de Julien Maury. Alors c'est un film qui marche clairement dans les pas de Haute Tension, notamment parce qu'on retrouve un duo d'actrices qui va porter tout le film avec Alison Paradis, qui joue le personnage principal, qui est une journaliste qui a subi un accident de voiture avec son compagnon, qui a perdu son compagnon et qui est donc enceinte et veuf et qui va bientôt accoucher de son enfant. À l'intérieur est un film qui est extrêmement intéressant. Alors, le film raconte l'attaque et la violation domicile lors du réveillon de Noël d'une jeune femme enceinte, donc Alison Paradis, par une femme étrange, Béatrice Dalle, bien décidée à lui arracher par tous les moyens les bébés qu'elle a dans son ventre. Alors, l'introduction à nouveau, c'est quelque chose qu'on avait déjà avec Haute Tension, c'est que c'est une introduction qui est dans le dur, c'est une introduction qui, dès le début, va nous accrocher parce qu'on commence directement par un accident de voiture du point de vue d'un enfant dans le ventre. Et derrière ça, en fait, on va commencer à voir Alison, qui est une journaliste, qui a perdu son mari. Et c'est intéressant que ce soit une journaliste parce que ça va permettre d'évoquer les mots, la situation, enfin l'environnement dans lequel elle se situe. C'est-à-dire qu'au moment de ce réveillon, on est en plein milieu des révoltes des cités. Et ce qui est intéressant, c'est que on a les justifications des révoltes qui étaient à l'époque. Oui, c'est juste des gamins qui s'ennuient, c'est pas vu comme une revendication sociale. Et c'est un film qui a la particularité d'avoir beaucoup de non-dits qui participent à son atmosphère. Au tout début, lorsque Alison sort de l'hôpital, elle va tomber sur une dame qui va vouloir l'aider. Et en fait, elle appelle constamment cette dame par son prénom. Il y a juste à la toute fin de leur échange qu'elle demande à sa mère de ne pas continuer à s'imposer comme ça. Et c'est un film qui utilise peu de mots, qui fait qu'on est dans des situations un peu de flottement. C'est une ambiance très particulière et compliquée à décrire. Alors, vu que tout le film se passe dans la maison, on a un peu ce côté home invasion, un peu de huis clos qui est extrêmement tendu. Le plus gros bémol pour moi dans la représentation, c'est qu'à l'intérieur de cette maison, il y a une sorte de brume constante étrange. Je ne sais pas dans quelle idée ils la mettent, mais c'est quelque chose qui est présent et que personne ne remarque. Je sais pas, ça essaye de créer une ambiance, mais c'est le seul truc qui m'a un peu sorti du film. La grande force par contre qu'il a, c'est que je le trouve extrêmement imprévisible. Il y a plusieurs éléments qui se mettent en place qui sont extrêmement cool, notamment la deuxième venue de la police, que j'apprécie énormément parce qu'elle est à la fois elle est faite de manière très intelligente parce qu'elle repasse, parce qu'elle a déjà appelé pour une urgence, et au moment où ils sont sur point de repartir, ils se rendent compte qu'il y a un détail qui ne fonctionne pas, ils reviennent. Et la participation de la police, c'est un grand moment du film, je trouve. C'est un moment qui est extrêmement réussi. Alors c'est un film qui en profite aussi pour être violent, je le trouve beaucoup plus violent que Haute Tension, parce qu'il va prendre plus de temps à s'appuyer sur certaines scènes, notamment le moment où on va avoir une main qui va être plantée par des ciseaux, et on va bien rester sur le fait que la main est bloquée, ou une scène où on a un escalier qui est recouvert de sang, qui sont des plans qui sont très bons et très beaux. Et c'est quelque chose qui fonctionne, surtout dans le tout dernier plan qui est d'une beauté et d'une horreur en même temps, qui est magnifique, parce que c'est un film qui parle de femmes enceintes, et c'est intéressant qu'ils en parlent au moment du film où on est à la même période qu'à la naissance de Jésus, donc de l'Immaculée Conception, et il y a tout un lien qui se fait bizarrement entre les deux. On se retrouve avec un film d'horreur avec une femme enceinte qui va parler un peu de l'horreur de la grossesse, mais surtout de la solitude, voire le fait que la grossesse peut briser le corps d'une femme. Et à l'intérieur d'Alexandre Bustillo et de Julien Maury est un bon film qui permet de rappeler à quel point l'horreur française a été vraiment dévaluée à un moment. Et c'est à nouveau un film qui est disponible chez ESC.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.